Radio Kapi.
Le journal Jocelyne Moussaoupondé.
Badolit et des membres du cadre de concertation de la société civile devant la mairie. C'était pour réclamer l'amélioration des conditions des détentions à la prison centrale de cette ville. 11 personnes tuées dans une nouvelle attaque de la Codeco lundi soir dans deux villages du territoire de Djougou en Ituri. Ces miliciens ont également incendié plusieurs maisons des pêcheurs et emporté une importante quantité de leurs poissons. Notre invité ce midi est Nicolas Folliot, directeur du laboratoire pharmaceutique BioGaran. Le laboratoire vient de lancer ses activités en RDC. Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, sachez que le couvre-feu est levé en République démocratique du Congo, sauf dans les deux provinces sous état de siège. Le gouvernement a également annoncé la suppression du test COVID-19 à l'entrée du territoire national pour tous les voyageurs complètement vaccinés. La décision concerne aussi les voyageurs complètement vaccinés pour les vols domestiques initialement. Plus soumis à un test obligatoire. L'annonce a été faite hier à la RTNC par le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement à la suite de la réunion présidée par Félix Tshisekedi avec la task force présidentielle des luttes contre la COVID-19. On l'écoute.
Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour les provinces sous état de siège. La suppression de tests COVID-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné. 3. La suppression de tests COVID-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays pour les vols domestiques donc. Cependant, le gouvernement de la République attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en République démocratique du Congo. Surtout, avec le risque de survenue d'une éventuelle cinquième vague au regard de la saisonnalité observée après ces deux dernières années de lutte contre cette pandémie. C'est ainsi que les gestes barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application.
Rendons-nous à présent au nord, au Bangui. Je l'ai dit, la société civile dénonce les mauvaises conditions de vie des détenus à la prison centrale des Gbadolité. Ainsi, le cadre de concertation de la société civile dans sa composante droits humains a organisé hier lundi un sit-in en vue de réclamer une amélioration de ces conditions. Leur mémo a été lu devant le maire de la ville. Et dans la province du Maniema, pas de ravitaillement à la prison centrale de Kindu. C'est là depuis le mois de janvier. C'est le directeur de la prison centrale de Kindu qui le dit à Radio Kapi. Il fait savoir qu'à part le ravitaillement, les prisonniers n'ont pas de médicaments. Paul Ilunga Lukengo appelle les hommes de bonne volonté à venir au secours de ces 456 détenus. Paul Ilunga Lukengo, directeur de la prison centrale de Kindu, au micro de Florence Kiza.
Normalement, nous recevons le ravitaillement au mois de janvier, la première tranche, mais jusqu'à présent, ça ne vient toujours pas. Et nous sommes déjà au mois de février, aujourd'hui le 15, nous attendons encore. On se débrouille avec un petit rien là, j'achète comme hier là, je suis allé au marché, j'ai acheté quelque chose quand même, ils ont mangé. Auparavant, on craignait les soulèvements, mais actuellement, les prisonniers sont calmes. Nous les avons sensibilisés de ne plus se soulever. Alors, ils ont compris qu'il n'y a pas de ravitaillement. J'ai échangé avec ma hiérarchie, le chef de division. Il fait une pression de l'autre côté là pour qu'on nous envoie quand même quelque chose. Aux hommes de bonne volonté, comme les églises, les ONG, c'est pouvoir appuyer les prisonniers. Les prisonniers sont au nombre de 456, 9 femmes et 29 mineurs. Puis il y a aussi les médicaments qui manquent encore.
Ensuite, Kivu, la prison de Kamituga en territoire de Mwenga mérite une attention particulière concernant les conditions de vie des détenus. C'est une organisation de défense de droits humains qui sonne l'alerte à l'issue de la visite de cette maison carcérale du territoire de Mwenga. Des prisonniers non jugés depuis plusieurs mois, aucun personnel médical pour assurer les soins des détenus. Emmanuel Elamejua Kabedi.
C'est l'organisation Partenariat pour la protection intégrée PPI qui se dit inquiète et qui dénonce les conditions dans lesquelles vivent les détenus à la prison centrale de Kamituga en territoire de Mwenga. Pour cette structure de défense des droits humains, il existerait plus de 80% des détenus à la prison de Kamituga qui sont encore des préventifs. Pour Pascal Mupenda de PPI, la prison de Kamituga ne vit que des aides des personnes de bonne volonté car non subventionnées par l'État congolais. En conséquence, cette maison carcérale ne dispose d'aucune réserve en nourriture, moins encore du médicament. Elle n'a ni médecin ni infirmier pour le suivi des malades en détention. Ainsi, Partenariat pour la protection intégrée recommande au gouvernement congolais de construire une prison aux standards modernes pour le respect des droits humains à Kamituga, d'apporter aussi en toute urgence la nourriture et médicaments à la prison de Kamituga, tout en y affectant des médecins et infirmiers permanents. Au gouvernement provincial du Sud Kivu, l'ont dit reconnaître la situation, mais le plaidoyer est en cours pour que la prison de Kamituga soit aussi prise en charge par le gouvernement central de Kinshasa. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au chapitre sécurité, en Ituri, 11 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque de la milice Codeco hier soir au village lacustre de Mouvaramou et de Kango dans les territoires de Djougou. Des sources locales indiquent que ces hommes armés ont mis le feu à plusieurs habitations des pêcheurs et emporté une importante quantité de poissons. Les rescapés de cette attaque et la population des localités proches ont pris des embarcations pour quitter la zone envahie par ces assaillants. Isaac Remoyope nous fait le point.
Ces miliciens de la Codeco munis des fusils et d'armes blanches sont partis de leur bastion vers les villages Assada et Alagi. Ils sont descendus lundi soir jusqu'au pied du mont Blé qui longe une dizaine de localités au bord du lac Albert. Ils ont surpris les pêcheurs qui exerçaient leurs activités de pêche par des tirs nourris d'armes. C'était la débandade totale. Au village de Mouvaramou, on a enregistré 3 morts dont un militaire qui s'était détaché de sa position. Dans la localité voisine de Kango, ces miliciens ont tué 8 personnes et incendié plusieurs maisons de pêcheurs. Ils se sont livrés au pillage des poissons salés qui se trouvaient sur les étalages et d'autres stockés dans les maisons. Les habitants de ces deux villages se sont précipités dans des pirogues de pêche pour échapper aux exactions de ces inciviques. La plupart de ces personnes se sont dirigées vers Tchomia, centre commercial situé à environ 60 km. Signalons que cette attaque s'est produite après plusieurs mois d'accalmie observée dans ces localités lacustres, ce qui avait permis à de nombreux pêcheurs qui avaient fui notamment en Ouganda de retourner dans la zone pour vaquer à leurs activités. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri pour signaler encore que des miliciens de la Codeco se sont installés dans les chefferies de Walendu Wati, de Mokambo et de Pandourou dans les territoires de Mahagi en provenance de Djougou. Leur mouvement s'observe depuis la semaine dernière par la population locale. Selon la société civile de ces territoires, ces miliciens prennent des habitants en otage pour construire des abris dans leur camp. Ils collectent des vivres dans les marchés et y font payer des taxes pour leur survie, une situation qui crée des frustrations et la panique. Les victimes demandent au gouvernement de renforcer l'effectif des militaires pour dissuader ces inciviques. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Dans la province du Sankuru, le village de Mongo, dans le secteur de Mvungi, territoire de Lodja, est vidé de toute sa population. Mais un calme précaire règne en ce moment dans les localités du secteur de Mvungi et Nambelu après les affrontements qui ont commencé la semaine dernière suite à un vieux conflit foncier. La société civile parle de plus de 40 personnes mortes dont les dépouilles sont abandonnées dans la forêt au cours de ces affrontements. Une information rejetée par l'administrateur de territoire de Lodja qui avance le bilan de 3 personnes mortes, tandis que la police parle d'un cas de décès à l'hôpital général de référence de Lodja. Médaré Longué déplore cependant l'agression hier lundi du chef de la localité de Kondo Chumbe. Ce dernier a été grièvement blessé et il a été acheminé dans un centre hospitalier de Lodja, signalant que 3 hommes détenteurs des armes de fabrication artisanale arrêtés dans la localité de Kuchakoy, dans les secteurs de Vungi ont été présentés ce mardi à l'administrateur de territoire de Lodja au cours d'une parade tenue au stade. Et puis cette bonne nouvelle pour les habitants du Kasaï oriental, baisse du prix du litre d'essence à Mbujimayi, vendu la semaine dernière à 7000 francs congolais. Un litre d'essence coûte depuis hier 5500 francs congolais chez les revendeurs appelés communément Kadhafi. D'après la Fédération des entreprises du Congo et la Société de chemin de fer du Congo, cette baisse est justifiée par l'arrivée à Mweneditu de quelques wagons contenant le carburant. Explication externe de la FINA.
Le litre d'essence coûte 5500 francs congolais chez les revendeurs appelés Kadhafi. Il y a une semaine que le même litre se vendait à 6500 francs, voire 7000 francs congolais. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Kasaï Oriental, justifie cette baisse par l'arrivée à la gare ferroviaire de Mweneditu de quelques wagons contenant les carburants. Dominique Ilunga.
La présence dans les différents dépôts d'un stock important qui a été tracté par la SNCC et cet approvisionnement fait que aujourd'hui sur le marché, cette spéculation n'est plus. Alors si ça pourra continuer de cette manière, ça permettra à ce que ça baisse.
Le représentant de la SNCC Mbujimayi confirme cette information et annonce l'arrivée à Mweneditu d'un lot important de carburant dans un bref délai. Justin Mbouyi.
Nous avons réceptionné quelques wagons de carburant en provenance du nord, c'est-à-dire d'Ilebo. Et du côté sud, il y a un lot important de wagons chargés de carburant en cours d'acheminement vers Kamina et Mweneditu.
Signalons que malgré la présence du carburant en Mbujimayi, le prix des transports en ville n'est pas encore revu à la baisse. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, les produits pétroliers, notamment l'essence et les gazoils, deviennent de plus en plus rares dans quelques stations-service de la ville de Goma. Du coup, c'est la hausse du prix à la pompe et chez les revendeurs, communément appelés Kadhafi. Le responsable de l'Association des pétroliers du Nord Kivu justifie cette situation par la hausse du prix du baril sur le marché international, mais rassure qu'il n'y a pas rupture des stocks dans la ville et le prix reste le même. Gabriel Aminia. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions, mais rendons-nous d'abord dans la province du Bazouélé pour parler toujours de la situation du carburant, qui devient une denrée rare et quasiment introuvable sur les marchés de Banda, une localité située à plus de 600 km de Bouta, chef-lieu de cette juridiction. Selon des témoignages, un litre d'essence qui s'est vendu à 5000 francs congolais revient actuellement à 7500 francs. En cause, la difficulté d'aller s'approvisionner au marché des Bagou à la frontière avec le Soudan du Sud à 150 km de Banda ou encore à Iziro suite au mauvais état des routes. D'après un habitant de cette contrée, le déplacement qui n'est possible qu'à moto devient difficile. Plusieurs étendues des champs des groupements Katala et Musanza dans les territoires de Bukama, province du Olomami, sont dévastées par des éléphants en provenance du parc Upemba. Les agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, partis refoulés, ces pachydermes sont rentrés hier lundi à Luena. L'administrateur du territoire de Bukama redoute la famine pour ses administrés et plaide pour une assistance humanitaire pour ceux qui ont perdu les produits de leurs champs. Jean Gandou.
L'administrateur du territoire de Bukama à titre intérimaire qui livre cette information indique que ce sont presque tous les champs de maïs et de manioc de ces deux groupements qui ont été dévastés par ces pachydermes, estimés à une cinquantaine. Ces éléphants ont investi ces champs pendant près d'une semaine. Alertés, les agents de l'ICCN, accompagnés des éco-gardes, se sont rendus sur place pour refouler ces éléphants vers le parc Upemba, d'où ils sont venus. D'après Trudon Lengue, les différents villages sont construits soit totalement dans le parc de l'Upemba, le cas du groupement de Butumba, ou soit en encore en partie, à l'instar des groupements de Kibanda et de Kinkonja. La plupart des champs dévastés se trouvent donc sur le passage des éléphants. À cet effet, plusieurs fois, il a été évoqué la délocalisation de ces villages, mais il se pose toujours la question du manque de moyens. Entre-temps, on signale que la situation humanitaire est précaire dans ces entités. Tridon Lengue, administrateur du territoire de Bukama à titre intérimaire.
Les champs de la population ont été dévastés par les pachydermes, chose qui a comme conséquence la flambée des prix de produits de première nécessité. C'est notamment les prix de maïs qui se négocient actuellement entre 4 000 et 4 500 francs les seaux. Je pense qu'il va falloir que le partenaire de l'ICCN ou les partenaires humanitaires viennent en aide pour ne pas connaître les cas de malnutrition sévère, surtout pour les enfants de 5 à 10 ans.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Parlement éthiopien a levé ce mardi l'état d'urgence imposé en novembre lorsque les rebelles tigréens menaçaient de marcher sur Addis Abeba, a annoncé le ministère éthiopien des Affaires étrangères. La Chambre des députés d'Éthiopie a approuvé aujourd'hui la levée de l'état d'urgence imposé pour 6 mois, a tweeté le ministère.
L'invité.
Le laboratoire pharmaceutique BioGarant a lancé le 11 février dernier ses activités en République démocratique du Congo. D'après son directeur, c'est pour permettre à la population congolaise d'accéder aux médicaments génériques fabriqués selon les normes en France et vendus à moindre coût en RDC. Nicolas Folliot l'a fait dans un entretien avec Fulbert Balolage. Il est l'invité du journal.
Docteur Nicolas Folliot, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous venez de vous installer en République démocratique du Congo, de lancer vos activités. Pourquoi c'est maintenant en République démocratique du Congo?
Nous avons conduit une étude et des investigations pour mettre en place une stratégie de développement à l'international en 2016. Nous avons pris la décision et nous avons fait des conclusions et des recommandations à notre direction du groupe, comme quoi il était extrêmement important de développer notre activité en priorité sur l'Afrique subsaharienne, francophone, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Centre. Nous avons commencé à déposer nos dossiers d'enregistrement dans les années 2018-19 sur les pays principalement d'Afrique de l'Ouest dans un premier temps, puisque en fait la réglementation sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone du Centre, en dehors de la RDC, ont une réglementation assez homogène au niveau réglementaire. Au niveau distribution, les prix sont réglementés et donc ce sont, on va dire, des territoires qui étaient assez faciles à appréhender pour démarrer notre expansion à l'export. Et puis, une fois qu'on a démarré avec des pays qu'on considère comme plus simples à démarrer, eh bien, il faut aller dans les pays qui sont un peu plus complexes. Mais après de multiples investigations sur justement la complexité de la République démocratique du Congo, nous avons été totalement convaincus pour initier des enregistrements et lancer nos activités dès que possible. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On aurait voulu le faire un petit peu avant, malheureusement. Comme vous le savez, avec le contexte de l'épidémie, on est resté pratiquement 2 années sans voyager. Et donc, ça nous a retardé, en tout cas, dans le déploiement de notre activité en République démocratique du Congo.
Qu'est-ce que ça apporte, la présence des BioGarant en République démocratique du Congo? Puisque vous n'êtes pas le premier, certainement pas le dernier, mais qu'est-ce que ça apporte d'être là?
Il y a plusieurs bénéfices, plusieurs aides que présente BioGarant pour le médecin, le pharmacien, le patient, les infirmières, les auxiliaires de santé. Alors le premier, c'est une qualité d'excellence au niveau du produit, puisque la totalité de nos produits sont au standard européen. Ils sont produits en Europe ou en France et ils suivent la réglementation, et notamment il est requis d'avoir des études de bioéquivalence qui sont strictement identiques aux produits originaux. Donc c'est une caution de qualité, c'est une caution d'efficacité, et dans le même temps nous avons une taille extrêmement importante en France qui nous permet de bénéficier d'économies d'échelle pour proposer les prix les plus attractifs départ France, de manière à ce qu'on puisse satisfaire les besoins de la plus large population dans les territoires dans lesquels nous avons lancé BioGarant en Afrique de l'Ouest et centrale.
pour une entreprise, le plus important, ce n'est pas les produits, mais plutôt de les mettre à la disposition de la population. Quels sont les mécanismes d'accès aux produits, non seulement à Kinshasa, à Lubumbashi, mais aussi dans les autres coins de la République démocratique du Congo?
Nous avons décidé de nous associer à un partenaire COGESAF, qui est basé en Belgique, mais qui a une filiale donc à Kinshasa, Getraco. Et Sofaco, hein, il a deux filiales. Et il a plusieurs antennes dispersées. Il a quatre antennes actuellement dispersées sur l'ensemble du territoire de République démocratique du Congo. Dans le même temps, nous avons décidé et nous avons fait le choix d'avoir une représentation médicale sur Kinshasa. Mais nous avons souhaité en parallèle être présents à Lubumbashi. Et ensuite, nous souhaiterions assez rapidement aller à Goma et sur les autres territoires qui sont un peu éloignés de Kinshasa. Puisque notre objectif, c'est de rendre nos produits disponibles à une large population, quel que soit le territoire où elle se trouve.
Quels sont les défis que vous avez trouvés que vous devez surmonter pour servir la population?
Les défis, c'est d'avoir un flux de produits qui soit continu, permanent, de manière à ce que les médecins puissent les prescrire, les pharmaciens puissent les délivrer et que les patients puissent avoir un traitement au long cours qui ne soit pas déstabilisé. Donc notre enjeu et notre défi principal sur lequel je suis extrêmement vigilant, c'est l'approvisionnement, la qualité de l'approvisionnement, les quantités approvisionnées, de manière à ce que on puisse véritablement traiter les pathologies des patients au long cours sans rupture. C'est ça mon défi principal.
Docteur Nicolas Folliot, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.